que ton esprit nous visite et ouvre nos cœurs, ouvre notre intelligence, et que ce qui va nous être proposé devienne parole, devienne ta parole au plus profond de nos cœurs, dans un finalement Eric, Seigneur, que nous entendons. Je bénis, Seigneur, de vous des arguments.
Amen.
Parce que ta volonté soit faite. Amen.
Amen. Je vous invitais à lire cette semaine, je ne sais pas si vous avez reçu mon message, mais je vous ai invité à lire Josué. En fait, tout le livre de Josué est un livre sur la conquête. Sur la conquête d'Israël, la conquête du pays promis à Dieu, à Moïse. Moïse qui n'est pas rentré dans ce pays promis. Et tout le livre de Josué, c'est le livre d'une conquête, d'un territoire, d'un pays qui était promis par Dieu. Et ce livre de Josué est particulièrement édifiant. Nous connaissons tous le récit de la prise de Jéricho, le récit d'une prise d'une ville, mais de manière miraculeuse, parce que la ville de Jéricho était entourée de forteresses absolument impressionnante. C'est ce que en disent les historiens et ce que disent les sites archéologiques qui ont laissé quelques traces. Ces forteresses très élevées, aux murs très épais, étaient assez impressionnantes. Et la prise de Jéricho n'est pas la résultante de moyens techniques qui ont été utilisés pour démolir les murailles. Il n'y a eu aucun moyen technique qui n'a été utilisé par les Israélites pour conquérir la ville de Jéricho. Cela s'est fait au bruit des trompettes, mais aussi à une dimension spirituelle. Il a fallu marcher pendant près de 7 jours autour de la ville. Le 7e jour, 7 fois la ville, les Israélites en ont fait le tour. Et au bruit des 7 trompettes, cette dimension répétitive des chiffres qui ont été donnés et qui montraient que finalement cette victoire ne résulte pas des moyens engagés par Israël, mais résulte de la puissance spirituelle qui accompagne Israël. Retenez qu'on ne va pas dissocier le chapitre 7 que nous allons lire de Josué du chapitre 6. La prise de Jéricho. Le chapitre 7, c'est la prise d'Aï. Mais autant, je dirais, la prise de Jéricho semblait facile, Aï, la prise d'Aï, a été d'une vraie difficulté. Qu'est-ce qui s'est-il passé? C'est toute la trame de ce livre. Je voudrais vous dire tout simplement que la prédication, comme cela a été rappelé par notre frère Olivier, si nous accueillons la prophétie comme une simple parole qui est donnée à l'Église, eh bien, nous recevrons la récompense de notre écoute, c'est-à-dire qu'on ne retiendra pas grand-chose. Mais si nous accueillons la parole de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu qui est donnée, si nous l'accueillons, je dirais, comme telle, elle produira ses fruits. Elle produira ses effets en nous. Parce que ce que j'ai partagé ce matin à Loretta, finalement, nous nous appelons centre biblique parce que nous mettons au cœur de nos vies, de nos existences, la parole qui transcende notre cœur, qui vient changer notre cœur. Si nous acceptons ce matin d'entendre l'enseignement qui est donné, comme tel, comme une parole prophétique est donnée à l'Église, alors nous verrons les fruits de cette parole. Mais si notre écoute n'est pas attentive, si nous nous laissons distraire, bien cela ne produira aucun fruit en nous. Je pense que je veux vous interpeller ce matin sur ce qui va être dit. J'ai passé du temps dans la méditation, du temps dans la lecture. J'aimerais que nous en saisissions tout le sens. Peut-être vais-je lire ce chapitre 7 de Josué. Écoutez bien le verset 1, pour comprendre tout le contexte et tout le contenu de cette prédication. Chapitre 7 de Josué, verset 1, je vous laisse le soin de prendre votre Bible et de lire avec moi ce texte. Il est écrit que les Israélites commirent un acte d'infidélité. Notez bien le pluriel qui est intentionnel. Le pluriel qui est intentionnel. Les Israélites, ce n'est pas un Israélite, ce sont les Israélites qui commirent un acte d'infidélité au sujet des biens voués à la destruction. Et paradoxalement, il cite un personnage qui s'appelle Achan. Pourquoi Dieu va utiliser le pluriel et ne désigne pas Achan? Dieu aurait pu dire Achan a commis un acte d'infidélité. Or non, il n'en est rien. Ce n'est pas Achan qui a commis un acte d'infidélité, c'est Israël qui a commis un acte d'infidélité. Et pourtant, lui seul est coupable. Pourtant, Achan est seul coupable. C'est étrange. Mais nous allons avoir cet éclairage sur un plan spirituel. Achan, fils de Carmi, petit-fils de Zabdi, descendant de Zérak, de la tribu de Juda, prit des biens ainsi consacrés. Dans le contexte, il faut rappeler que Dieu avait voué la ville de Jéricho à l'interdit. Aucun bien ne pouvait être pris. Tout était voué à la destruction. C'était un ordre formel donné par l'Éternel à l'ensemble des Israélites qui avaient conquis la ville de Jéricho. Seul l'avis de la prostituée qui avait fait bon accueil aux espions avait été épargné. Et ceux qui l'entouraient. Mais toute la ville était vouée à l'interdit. Il est dit ensuite que Achan donc prit des biens consacrés et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les Israélites. De Jéricho, Josué envoya des hommes vers Haï, qui est situé près de Beth-Aven, à l'est de Bethel. Il leur dit, montez explorer le pays. Ces hommes montèrent explorer Haï. De retour vers Josué, ils lui dirent, il est inutile de faire monter tout le peuple à l'attaque. 2 000 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car eux sont en petit nombre. 3 000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les habitants d'Haï. Les habitants d'Haï tuèrent environ 36 hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte de la ville jusqu'à Shebarim et les battirent à la descente. Le peuple perdit courage. Il est même écrit que le peuple se liquifia. Se liquifia. Je ne sais pas si vous connaissez l'expression « être en compote ». Vous connaissez l'expression, hein ?« Être en compote ». C'est-à-dire que la peur nous a tellement étreints, nous a tellement saisis, que nous en sommes comme liquides, liquifiés. C'est-à-dire que tout est mou en nous, tout est élastique en nous, et nous sommes saisis par la peur, nous sommes terrifiés, nous sommes liquifiés. Donc imaginez la peur qui terrorisa Israël. Josué déchira ses vêtements. Et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre, devant l'arche de l'Éternel. Il était avec les anciens d'Israël. Et ils se couvrirent la tête de poussière. Josué dit, « Ah, Seigneur Éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple? Est-ce pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire mourir? Si seulement nous avions pris la fuite devant ses ennemis. » Les Canéens et tous les habitants du pays l'apprendront. Ils nous encercleront et feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom? L'Éternel dit à Josué, lève-toi.
Pourquoi restes-tu ainsi prosterné? Écoutez bien ce que dit l'Éternel. Israël a péché. C'est pas Achan, hein, qui a péché. Israël a péché. Ils ont violé mon alliance, celle que je leur ai prescrite. Ils ont pris des biens voués à la destruction. Ils les ont volés et ont menti. Ils les ont cachés parmi leurs affaires. Ainsi, les Israélites ne peuvent plus résister à leurs ennemis. Ils prendront la fuite devant eux, car ils sont sous une menace de destruction. Je ne serai plus avec vous si vous n'éliminez pas l'objet voué à la destruction du milieu de vous. Amen. Vous connaissez la suite, puisque je vous ai invité à lire l'ensemble du texte de Josué 7. Cela se conclut bien pour Israël, puisque finalement, Josué convoquera Achan parmi toutes les tribus, Achan de la tribu de Juda, et demandera à Achan de reconnaître son péché. C'est une parole interpellante que nous venons de lire. Alors ne pensez pas que cette parole est pour hier. Cette parole est pour nous aujourd'hui. Dieu nous donne cette parole pour nous aujourd'hui. Et l'Église aussi, alors que nous pouvons être innocents de tel acte, eh bien, être induits, impliqués par un péché individuel, et collectivement nous en portons la responsabilité. Ça veut dire, en d'autres termes, qu'il nous faut être vigilants, savoir avertir, savoir prévenir, et dire à nos frères combien il est important aussi pour nous de veiller sur les uns et sur les autres, afin que nous ne trébuchions pas. J'ai beaucoup aimé l'enseignement qui a été donné ce dimanche dernier. Ce dimanche sur l'hypocrisie, la comédie, la dissimulation, le rôle que l'on peut jouer, mais ce décalage entre, je dirais, ce que je suis et la réalité de ce que je vis. Et notre frère Aubin ne venait pas en accusation, il parlait de lui-même, comme je parle de moi-même. Il n'est pas venu accuser les frères, il est venu dire « cela peut nous concerner, cela peut être notre attitude. Chaque fois que je me décale par rapport à ce que je devrais être, mais que je ne suis pas, eh bien je commets un péché. Quand mes sentiments ne sont pas vrais, quand mes sentiments ne sont pas sincères, je suis en décalage et je commets un péché. » Vous vous souvenez de ce chapitre 6 de la prise de Jéricho. Tous les prêtres sonnaient de la trompette. Josué fit pousser des cris à tout ce peuple d'Israël le septième jour. Les murailles en un instant, des murailles impressionnantes, des forteresses absolument impressionnantes. Ces murailles, en un instant, se sont effondrées. Nous pouvons lire ce passage où Josué donna ses instructions, après l'affaissement de la ville de Jéricho, au chapitre 6, verset 16. Chapitre 6, verset 16. Josué dit au peuple, « Poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. » Puis Josué ajoute, « La ville, je l'ai rappelé tout à l'heure, sera vouée à l'Éternel. Elle et tout ce qui s'y trouve, toute la ville sera vouée à l'Éternel, consacrée à l'Éternel, elle et tout ce qui s'y trouve. Mais on laissera la ville, et je l'ai rappelé aussi, la vie arabe, la prostituée et tous ceux qui étaient avec elle dans sa maison, parce qu'elle a caché des messagers que nous avions envoyés. Et l'Éternel donne cet avertissement. Cependant, gardez-vous de bien toucher à ce qui sera voué à la destruction. En effet, si vous preniez de ce que vous avez voué à la destruction, vous mettriez le camp d'Israël sous une menace et vous causeriez son malheur. Alors la victoire de Jéricho, elle semblait éclatante. La reconquête du pays commençait bien. La conquête du pays de Canaan se passait dans les meilleures conditions. On est d'accord? Donc, pour Israël, la suite de la conquête serait aisée, facile. N'est-il pas écrit d'ailleurs dans Josué chapitre 7, verset 3, à propos de la conquête de la ville de Haï, l'un des messagers qui avait été envoyé en reconnaissance pour poser un diagnostic sur la ville d'Haï, qui elle aussi était bardée de forteresses, mais pas aussi impressionnant que la ville de Jéricho. Et l'un des messagers, venant faire son diagnostic auprès de Josué, dit à Josué, bah, « Écoute, c'est inutile de faire monter tout le peuple à l'attaque. Il nous suffit d'être 2000 ou 3000. 2000 hommes, 3000 hommes, et la victoire est quasi assurée. Ils ne résisteront pas. » Est-ce que c'est un défaut d'orgueil? Non, c'est une réalité. Le diagnostic était juste. Ce n'est pas l'orgueil ni l'arrogance d'Israël qui est ici en cause et qui sera la cause de leur défaite. Ce n'est pas avoir surestimé une situation qui a été la cause de leur échec. Au fond, si moi j'avais été messager, j'aurais fait le même constat, j'aurais partagé le même diagnostic et j'aurais dit ben, « Voilà, ce n'est pas la peine d'emmener tout le peuple pour conquérir Haï, la prise sera facile. » Ils ne feront aucune résistance. En plus, l'Éternel est avec nous. Donc, ils envoient 3000 hommes. 35 ont été tués. Ils ont été mis en déroute. Ce fut un échec terrible pour Israël. Que s'est-il passé? Cela a amené un découragement total. Puisque, je vous ai dit, le peuple a été liquéfié. Une peur a saisi l'ensemble. Si une défaite a été reçue, c'est tout l'environnement, toutes les promesses de Dieu qui viennent s'effondrer. Pourquoi, Dieu, tu n'es plus avec nous? Que s'est-il passé? J'espère que je pose bien la mise en scène, que vous me suivez bien, que vous comprenez bien. C'est un moment terrible qu'est en train de vivre Israël. Oui ou non? C'est un moment terrible. C'était promis la victoire contre Haï. Mais voici, je lève un voile de cette intrigue. Quand le peuple oublie sa dépendance à Dieu, quand on oublie les commandements, lorsqu'on oublie les interdits, quand on oublie les enseignements de l'Éternel, et qu'on décide intentionnellement de les transgresser du fait de ses envies charnelles, nous pouvons éprouver le trouble. D'ailleurs, vous noterez que la vallée d'Achor, là où se trouve la ville de Haï, s'appelle Trouble. Il y a comme une empreinte sur la mémoire de la vallée d'Achor. Ville, la vallée de l'affliction, la vallée du trouble. Il y a eu là un trouble qui a marqué le territoire pendant de longues, longues, longues années. Longue période. Et si vous connaissez les Écritures, Dieu a transformé la vallée d'Achor. Dieu a renversé l'empreinte et la forme de malédiction qui avait pesé sur le territoire d'Achor. On va le découvrir par la suite. Cette vallée du trouble a été transformée en vallée d'espérance. Parfois, notre vie chrétienne, notre vie d'Église a pu être marquée par des troubles. Dieu nous donne toujours l'espérance quand l'Église décide de se repentir. Si mon peuple s'unit, le Seigneur fait retomber sa gloire sur l'Église. Mes frères et sœurs, nous pouvons donc nous-mêmes, collectivement, être confrontés à des échecs désastreux. Si nous entachons la lumière de Dieu qui habite en nous, si nous voilons à nos frères et sœurs la vérité, chaque fois que tu voiles à ton frère et à ta sœur la vérité, Dieu n'habite plus en toi. Si nous édulquerons, si nous adoucissons la vérité qui touche à l'enseignement biblique, nous voilons la vérité. C'est le thème qui est développé dans le livre de Josué, chapitre 7. Ne prenons pas à la légère l'avertissement de la parole de Dieu dans le livre de Ésaïe, chapitre 30, verset 1. Verset 1, pardon. Chapitre 30, verset 1. Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. Ésaïe 30, verset 1. Il nous est rapporté au début du chapitre 7 que Achan de la tribu de Juda s'empara des biens qui avaient été voués à l'interdit. Il est précisé que ces biens étaient pour son usage personnel. C'était accaparé de ses biens par pure convoitise. Emparé en effet d'un beau manteau, 200 sicles d'argent et un lingot d'or de 600 grammes, par pure convoitise. Cela nous rappelle finalement le récit du livre de la Genèse où Ève et Adam se sont accaparés par convoitise du fruit de la connaissance du bien et du mal. Et c'est toute l'humanité qui est rentrée dans le péché, collectivement. Ce n'est pas la responsabilité de Adam et Ève, toute la génération des êtres humains est entrée dans un péché, dans une dimension collective. Achan confessa auprès de Josué et tout le peuple qu'il en avait eu envie. Pire, Achan décida de dissimuler ses objets dans la terre à l'insu de tous. Pas vu, pas pris. Pas vu, pas pris. Hein? C'est certainement dit Achan. Or, les biens convoités puis volés étaient promis, étaient consacrés à l'Éternel et voués à la destruction. Parfois, dans les prises des villes, hein, c'est ce qu'on lit dans le récit de Josué, les biens sont partagés. Mais ici, pour la ville de Jéricho, tous les biens étaient consacrés à l'Éternel, voués à l'interdit. On est bien d'accord, hein? Tout. Et la démarche d'Achan a eu de terribles conséquences, des conséquences sociales, des conséquences sur la confiance d'Israël, puisque le peuple s'est trouvé totalement découragé, mais des conséquences spirituelles. Et la conséquence spirituelle, c'était la menace que Dieu a faite de se retirer au milieu de ce peuple qu'il protégeait. Dieu l'a dit, je me retire. Je vous avais pourtant dit, je vous avais pourtant averti, vous n'avez pas écouté. C'est collectivement. C'est-à-dire que nous sommes conduits à dire la vérité, à ne pas l'édulcorer, à dire la vérité. Ceci est interdit. Et si vous vous affranchissez de l'interdit, c'est un jugement collectif. Vous me suivez? Le texte de Josué, chapitre 7, m'a interpellé à la suite de toutes les prédications qui ont été données depuis plusieurs semaines. La dernière prédication qui a été donnée donc à l'Église a touché beaucoup d'entre nous. Dieu ne veut pas que nous portions un masque, que nous épousions l'hypocrisie, les faux semblants, faire comme si nous n'étions pas concernés. La duplicité, la tromperie, la fausseté, ça peut venir très très vite embrasser notre cœur. Oui, Dieu attend que chacun se comporte en vérité. Josué, dans ce texte que nous avons lu, attend de Achan qu'il parle en vérité. Mon fils, dit Josué à Achan, donne gloire à l'Éternel et rends-lui hommage. Dis-moi ce que tu as fait. et ne me le cache pas. Cette parole de l'Éternel me parle. Dis-moi ce que tu as fait et ne me le cache pas. Dis-moi ce que tu as fait et ne me le cache pas. Je reprends tes propos, Aubin. Ce ne sont pas les miens. Ce que tu as donné à l'Église. L'hypocrisie, comme tu l'as rappelé, est une attitude scandaleuse qui constitue une atteinte à l'ordre de la vérité. L'hypocrisie est contraire à un sentiment de sincérité, je reprends dans les propos que tu as tenus. Et tu as ajouté qu'il revient à exprimer fidèlement et avec bonne foi des sentiments ou pensées qui ne sont pas en phase avec ce que nous croyons. À ne pas confondre avec l'honnêteté qui, au sens strict du terme, exprime sans dissimulation tous nos sentiments et nos pensées. Au fond, à quand il a dissimulé. Il n'a pas dit la vérité. Le choix de prêcher le texte de Josué, mes frères et sœurs, est vraiment intentionnel. D'accord ? C'est pas par hasard que cette prédication est donnée. Parce que le Seigneur me poussait à donner cette prédication. Il ne s'agit pas pour nous ce matin de prendre conscience que notre Dieu est un Dieu saint et que l'alliance faite avec chacun d'entre nous est une alliance de grâce, seulement de grâce. Une alliance que nous ne pouvons ni mépriser, ni négliger, ni transgresser au gré de nos envies. Ce que Dieu nous dit, c'est qu'à chaque fois que nous violons un interdit, que nous contrevenons à ce qui est prohibé, nous profanons en quelque sorte l'alliance que Dieu a contractée avec nous. Chaque fois que je pêche sciemment, je viole l'alliance de Dieu. Je vous fais comprendre ? Chaque fois que je pêche sciemment, consciemment, faisons des tables de péchés inconscients, mais chaque fois que je sais qu'il y a un interdit, que Dieu a dit non, là, pas plus loin, que je m'affranchis de ce péché, je commets là un acte quasi irréparable. Ne péchons pas volontairement quand nous savons que Dieu nous dit « ça n'est pas plus loin ». La transgression des lois divines porte préjudice à la communauté, à l'ensemble de l'Assemblée. Dans le livre de Josué, nous notons ce passage interpellant où Dieu ne nomme pas à quand. Dieu ne nomme à aucun moment, il ne nomme à quand. Il dit « Israël a péché ». Josué 7, 11. En mentionnant ce verset, je songe à ce texte de Hébreux 4, 13. « Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout ce qui est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Ou bien dans Jérémie 16. « Car mes yeux sont attentifs à toute leur voix, elles ne sont point cachées devant ma face, et leur iniquité ne se dérobe point à mes regards. » Sachez, mes frères et sœurs, que tout vient à la lumière et l'esprit qui sonde tout met tout à la lumière afin de dévoiler les actions secrètes des hommes, les actions sournoises qui seront jugées en Jésus-Christ. Dieu ne dit pas en effet à quand a violé mon alliance. Jamais. Jamais. L'Éternel n'impute pas la responsabilité à quand. Il dit Israël a violé mon alliance. Israël a violé mon alliance. À plusieurs reprises, l'Éternel emploie le prénom « il ». C'est au pluriel. Ce n'est pas « il », « il », c'est « I-L-S », au pluriel. Et à plusieurs reprises, ce n'est pas une fois, c'est tout le temps « il », au pluriel, « Israël ». Je déclare à propos d'Israël, ils ont violé mon alliance. Dieu ajoute finalement que tout le peuple est sous une menace de destruction. Si le peuple tout entier est souillé par la faute d'Achan, tous les Israélites devaient en éprouver les conséquences associées à la faute, par le jugement. Il en est de même dans l'Assemblée chrétienne. Souvenons-nous de la sévérité de l'apôtre Paul. Alors vous pouvez nous dire, oh oui, mais Eric, là c'est légaliste, là c'est l'Ancien Testament. Oh oh ! Paul a dit exactement la même chose. Alors vous allez me dire, Paul est légaliste. Non, pas du tout. Dans 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 11, Il écrit une lettre émouvante à toute l'église de Corinthe. Quoique je vous ai attristé par ma lettre, peut-être que la prédication vous attriste. Et Paul ajoute, je ne m'en repens pas. Et si je m'en suis repenti, car je vois que cette lettre vous a attristé, car une prédication peut attrister, bien que momentanément, je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Car vous avez été attristé selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. Quand une prédication est donnée, et le pasteur Olivier a dit, si tu me reçois en qualité de prophète, c'est la récompense du prophète que tu as, que tu reçois. Si cette prédication vous est donnée et que vous la recevez comme étant un message prophétique, vous allez recevoir une récompense. C'est-à-dire que si ça fait effet dans votre cœur, si ça vient toucher votre cœur, si ça vous conduit à la repentance en disant, oui, je vais être attentif dorénavant, non pas à ma propre conduite, mais à la conduite de l'Église. Et c'est un devoir pour chacun de nous reprendre, si nous nous écartons. C'est un devoir de reprendre son pasteur, s'il s'écarte. Oui? Ce n'est pas une personne qui est au-dessus de vous. Il n'y a pas de personne au-dessus de vous. Mais c'est votre devoir d'interpeller et de veiller sur la conduite de chacun d'entre nous. Vous comprenez? Si je m'écarte, alors reprenez-moi. Parce qu'il en y va de la vie de l'Église. Les dérives vont si vite, mes frères et sœurs. Les fragilités vont si vite. Et puis, un jour, c'est le péché qui gagne toute la vie de l'Église. Parce que nous n'avons pas su anticiper, nous n'avons pas su prévenir, nous n'avons pas su être dans l'alerte. Dieu veut que nous soyons dans la vérité. Nous ne nous contentons pas d'affirmer que Dieu est amour. Oui, Dieu est amour, mais il est saint. Dieu est amour, saint et vérité. Dieu est vérité. Si aujourd'hui nous sommes devenus chrétiens, c'est en raison de la grâce dont nous avons eu besoin. Le besoin pour chacun d'entre nous d'être racheté, d'être pardonné. Et pour moi, je mesure combien Dieu m'a fait grâce. Il me fallait reconnaître mon péché, avouer que j'avais fait de ma vie une vie selon mes envies et non d'après le désir de Dieu. Si nous sommes tous venus à Christ, c'est parce que nous avons cessé de cheminer dans une vie finalement catastrophique. Et nous avons choisi de vivre selon le plan de Dieu, en ayant le bénéfice de sa grâce, de son amour pour nous accompagner tout au long de notre vie et de nous laisser transformer par la parole. Ce n'est pas pour revenir à notre ancienne vie que nous sommes venus à Christ. C'est parce que nous voulions nous éloigner de notre ancienne vie. Oui? Amen? Amen? Sans détour, je veux vous dire avec gravité que le péché peut avoir des conséquences pour l'ensemble de l'Assemblée. Ce que nous allons ce matin constater à nouveau à la lecture de Josué, certes, nous sommes tous pécheurs et nous continuons à pécher. Nous continuons à pécher. Et nous pouvons tous compter sur la grâce de Dieu, la patience, l'amour, pour continuellement nous pardonner. Et si je blesse ma sœur 470 fois, c'est ça? Voilà. Ben, écoute, si je autant de fois dans une journée et de nombreuses fois, tu me pardonneras. Amen. Amen. Et merci parce que je sais que ta grâce habite ton cœur et tu es patiente à mon égard. Amen. Et le fer aiguise le fer. Amen. Ça, c'est une parole dont on se souviendra à jamais. On entend le bruit du métal. Et ça façonne le visage. Ça le transforme à l'image de Christ. Le fer contre le fer. Il n'y a donc aucune limite au pardon. Aucune limite à la volonté de pardonner aux pécheurs. Mais Dieu pardonne aux pécheurs qui se repent et ne revient plus à son péché. Jésus pardonne à la femme adultère, mais lui dit « va et ne pêche plus ». Mais si à nouveau le pécheur retourne à son vomi, c'est ce que nous dit la parole, si à nouveau le pécheur retourne à son vomi, ce même pécheur enfreint l'alliance qu'il a contractée avec Dieu, il impacte par son péché toute la communauté. Imaginez qu'après avoir bénéficié d'autant de grâces, je retourne à mon passé. Je me détourne de l'Alliance. Quel impact cela va avoir sur la communauté? Combien de pasteurs ont chuté, tombé et ont eu un impact colossal sur la vie de leur Église? J'ai écouté des témoignages ce samedi matin où les pasteurs se sont retrouvés et j'ai entendu des témoignages saisissants de chrétiens qui ne reviennent plus à leur communauté, qui ne reviennent plus à l'Église à la suite du Covid, qui se sont détournés du Seigneur. D'autres, éloignés de Dieu, qui ne connaissaient pas Dieu, sont venus à Christ et ont connu la grâce. Mais ceux qui n'ont pas de racines, ceux qui ne sont pas ancrés dans la bonne terre, qui ont écouté les messages de façon superficielle, qui ne se sont pas en réalité repentis, enracinés dans la parole, chutent et ne reviennent plus. Il y a beaucoup de tristesse. Je pense que nous pouvons aussi l'avoir constaté autour de nous. Le triste chemin de la convoitise dans le cœur depuis la chute d'Adam et d'Ève au jardin est hélas toujours le même. J'ai vu, je les ai convoités, je les ai pris, verset 21 du chapitre 7. C'est ainsi que Jacques, l'apôtre, nous met en garde contre les mouvements de notre propre cœur, chacun étant tenté, étant attiré, amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise ayant conçu enfante le péché, et le péché consommé produit la mort. Je vous cite Jacques 1, du verset 14 au verset 15. L'objet de la convoitise d'Achan, c'est un beau manteau. Le manteau de Shinhar est des richesses, 200 cycles d'argent, et un lingot d'or, 600 grammes. C'est très précis. La parole nous met abondamment en garde contre la convoitise et l'attrait des richesses, leur effet désastreux dans la vie du chrétien. 1 Timothée 6,9, verset 10, comme référence. 1 Timothée 6, chapitre 6, verset 9, verset 10. Ce butin volé par Achan, malgré l'interdiction, était caché dans sa tente. Nous pouvons cacher dans notre tente des objets, des convoitises, des secrets. Nous pouvons cacher dans notre tente et ne pas dissimuler à la communauté, dissimuler à l'Église en disant « Mais ça ne regarde pas le pasteur, ça ne regarde pas l'Église, ça ne vous regarde pas, c'est mon jardin secret. » Est-ce que vous entendez ce type de réflexion autour de vous? Moi, je l'entends souvent. « Ça ne te regarde pas, c'est ma vie privée. » Quand il s'agit des interdits, ce n'est pas votre vie privée. Méditez. Ça impacte la communauté. C'est ainsi que le mal s'est introduit au milieu d'Israël. De la même manière, le mal dans l'assemblée chrétienne est entré par Ananias et Saphira, dont le péché, et vous le connaissez, avait le même caractère que celui d'Achan. Mais il était encore plus grave que celui d'Achan, en raison de la présence personnelle du Saint-Esprit dans l'assemblée, dans la vie de l'Église. Et on connaît le sort d'Ananias et Saphira. Hein? Les Écritures établissent toutes les dimensions qui enfreignent notre alliance avec Dieu. Est-ce que nous pouvons lire Galates, chapitre 6, verset 20? Galates 6, 20. Galates, rococoga, hein, pour faciliter vos recherches. Alors, 6, 20. J'y arrive. Ça n'existe pas? Ah non, c'est 5, je crois que ça va être 5, pardon. Alors voilà, excusez-moi, ça n'existe pas. Je me reprends. Voilà, j'y suis. Ça sera 5, 13, pardonnez-moi. En écrivant, j'écris spontanément. Je cherche, mais je ne suis pas tombé. Je n'ai pas écrit la bonne référence. Pardonnez-moi. Frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre. Au contraire, soyez par amour serviteurs des uns et des autres. En effet, toute la loi est accomplie dans cette seule parole, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », cela a été dit tout à l'heure. Mais si vous vous mordez, vous vous dévorez les uns les autres, attention, vous finirez par vous détruire les uns les autres. La destruction de l'ennemi tient par le fait que l'on se morde. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature. En effet, la nature humaine et les désirs sont contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit a les désirs, a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Cependant, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Eh bien, voici les interdits que Dieu donne. Je les liste. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche. Les autres interdits, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les sectes, les meurtres, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Et là, Paul dit, je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement, mes frères et sœurs, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ce n'est pas Éric, c'est la parole de Dieu. Ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas le royaume de Dieu. Pasteur Olivier, je te remercie d'être mon frère, d'être un frère qui a su avertir et d'aimer par-dessus tout le mot discipline et la dimension de la discipline. Et je veux faire de la discipline dans la vie d'Église un sujet primordial. Pardonnez-moi si je vous attriste. Je voudrais revenir à Caen, la vallée du trouble. À Caen avait troublé Israël, a troublé un territoire. Cette vallée fut appelée Accor, la vallée de l'affliction, du tourment, du dérangement. Ce sont les termes en hébreu. Le territoire en a gardé le souvenir. Il s'agit ici que de la mort du corps et non le jugement final de l'âme. Le nom de la vallée d'Accor, qui fut la vallée du jugement, en fait, c'est le gage de la fidélité d'un Dieu qui aime sans cesse son peuple, bien qu'il ait été souvent contraint de le châtier. Accor deviendra porte de l'espérance. La vallée du trouble deviendra la porte de l'espérance, et non une porte de désespérance. Accor est devenu l'avenir d'Israël. Dans Osée 2, 17, je donnerai ces vignes et la vallée d'Accor comme une porte d'espérance, et là elle chantera comme au temps de sa jeunesse, et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. Dans cette vallée d'Accor, Dieu déclare dans le livre de Osée, au chapitre 2, verset 23, et chapitre 2, verset 25, « Je planterai pour moi l'eau Rushama, l'eau Ami, dans le pays, et je lui obtiendrai miséricorde. Je dirai à l'eau Ami, tu es mon peuple, et il répondra, mon Dieu. » Dans la vallée d'Accor, Dieu déclare, tu es mon peuple, tu es mon peuple. Dieu chérit son peuple, il chérit chacun d'entre vous, chacune d'entre vous. Dieu me chérit, Dieu est un Dieu jaloux. À chaque fois que tu pèches, tu crées la jalousie et tu suscites la jalousie de Dieu. Parce que Dieu veut que tu l'aimes et que ton cœur, que ta conduite soit sainte. Souviens-toi, mon frère et ma sœur, de cette parole dans Proverbe 28, 13, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, nous pouvons avouer à Jésus-Christ nos péchés. Et si nous délaissons nos péchés, nous obtenons miséricorde. Accan n'a pas eu miséricorde. Il a été châtié. C'était la loi. Il n'en demeure pas moins que nous devons avouer nos péchés, reconnaître notre péché, non pas les reconnaître à quelconque d'entre nous, mais les reconnaître à Jésus. Ne dissimulons pas nos péchés à Jésus. Reconnaissons nos fautes, avouons nos fautes et il nous pardonnera. Nous avons l'assurance du pardon de Christ. Alors que Achan n'a pas eu ce bénéfice. Pour autant, il y a eu cette promesse de transformer la vallée d'Achor en vallée d'espérance. Parce que Achor était la préfiguration de cet avènement qui est venu à travers la croix. Celui qui cache les transgressions ne prospère point, celui qui les avoue, les délaisse, obtient miséricorde. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte. Dieu veut qu'il y ait de la crainte. Mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Si tu décides d'endurcir ton cœur et de ne pas revenir à Jésus, de dire « bon, oh, ce message, je n'écoute pas, je ferme les oreilles », celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Considère, mon frère, ma sœur, la bonté et la sévérité de Dieu, l'amour et la sévérité de Dieu. Considère l'amour et la sévérité de Dieu. C'est dans Romains, chapitre 11, verset 22. Considère la bonté, l'amour de Dieu et la sévérité de Dieu. Je ne dissocierai pas l'amour et la sévérité. Paul le dit lui-même, bonté et sévérité. Amen. Le Seigneur veut nous emmener vraiment plus loin pour que notre Église porte du fruit, beaucoup de fruits. Et ce n'est pas en cachant, ce n'est pas en dissimulant que nous avancerons, mais c'est en reconnaissant et en avouant devant l'Éternel notre faiblesse que nous nous appelons à sa miséricorde et à son pardon. Et alors nous pourrons croître. N'endurcis pas ton cœur. Écoute ce que l'Éternel a à te dire. Viens frapper ton cœur là maintenant. Demande-lui pardon. Reviens à lui. Reconnais ta faute. Reconnais ton péché. Je ne m'adresse pas forcément à vous. Je ne m'adresse pas forcément à ceux qui sont connectés. Je m'adresse à tous ceux qui écouteront ce message. Tous ceux qui écouteront ce message. Qui l'entendront. Afin qu'ils reviennent de tout leur cœur à l'Éternel, qu'ils avouent leurs fautes, qu'ils avouent leurs péchés, et qu'ils rentrent dans l'enracinement, dans la parole qui est la vérité. Amen. Seigneur, je te remets cette parole qui a été donnée à mes frères et à mes sœurs, et je te prie, Père, que cette parole fasse cheminement dans la vie de chacun. Seigneur, c'est parfois difficile, mais tu nous demandes de prêcher avec vérité, sans hypocrisie, sans détour, parce que tu veux mettre fin à l'hypocrisie. Tu veux que la vérité soit dans notre cœur et qu'elle soit déclarée comme telle. Amen.